Il y a beaucoup de moments où le désespoir nous séduit et qu'on se dit s'il faut continuer à travailler véritablement ou pas. Il y en a beaucoup de raisons d'abandonner. Je ne parle pas de Dava, je parle d'une manière générale, quand vous êtes engagé. Et qu'en plus de cela, des difficultés, là, il y a des obstacles qui sont ajoutés, pas méchamment, mais maladroitement. Et qu'il faut passer beaucoup de temps à se confronter à ces obstacles sans être sûr de les avoir définitivement vaincus, parce qu'ils reviennent continuellement, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de la relation, pour des tas de raisons. Et puis, de temps en temps, ce que... Oui, il est. J'avais un cours de Talmud hier matin, après à chaque prière, le Shabbat, entre 11h30 et 1h, il y a un cours de Talmud là. Et on avait choisi ensemble le problème de la justice. Et puis, on apprend dans cette Mishnah que des juges doivent être assis de telle manière qu'ils se voient face à face. Oui, alors de temps en temps, bien sûr, on a des signes comme ceux qu'on vient de recevoir, comme dit lui Marie, et qui sont des signes un peu empoisonnés. Oui, parce que quand vous recevez un don, hein, ce don au fond n'est pas gratuit. Bien sûr, il est gratuit par amour. Et puis aussi par le fait que ces signes portent le désir que celui qui le reçoit puisse prendre conscience de la valeur que le donneur y attache. Mais pourquoi c'est un peu empoisonné? Parce que le don n'est au fond pas au-delà du don gratuit par rapport à celui qui le reçoit. Ça devient une dette. Ça veut dire qu'il faut continuer. Et que maintenant que tu as reçu ce signe, tu es engagé. Exactement comme pour l'enfant, vous lui faites un cadeau. De mon temps, c'était des trains. Là, aujourd'hui, c'est les... Et si jamais vous voyez qu'il le casse immédiatement le lendemain matin, il reçoit au moins une engueulade des parents. Et le gosse, il répond, mais tu me l'as donné, c'est à moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça veut dire qu'on attendait quelque chose de lui par rapport à ce signe, ou par rapport à la signification portée par ce signe. Non, mais ça encourage, ça se dit non. Les difficultés qu'il y a, et je vous assure que travailler avec les Juifs, vous ne pouvez pas vous imaginer les chrétiens ce que c'est. Mais il y a un bonheur, pour les chrétiens aussi, il y a un bonheur extraordinaire de louer Dieu de nous avoir fait naître à l'intérieur de ce peuple. Ça aurait pu être autrement. On est né à l'intérieur de ce peuple. Et quoi que fasse ce peuple, et quel que soit le désespoir que beaucoup de Juifs mettent dans notre cœur et dans notre esprit, ce peuple doit traverser l'histoire. Et que ceux qui s'en sentent responsables et qui peuvent donner quelque chose, ben on ne donne pas tout. Mais que le peu qu'on a, qu'on le partage, pour que, après avoir quitté ce monde, qu'on soit sûr que cela continue. Voyez. C'est cela seul qui peut nous encourager. Voilà. Alors j'ai accepté ce signe. Et puis, si je parlais tout à l'heure de cela, ou tout de suite. Je ne sais pas combien de temps on me donne. Là, une minute. Là. C'est que si je n'étais pas convaincu que la solution de ce long problème depuis 2000 ans se trouve ouverte, initiée. Elle est encore qu'à ses débuts, 30 ans, qu'est-ce que c'est ? Pardava, non, je ne m'engagerai pas. Voilà. Et surtout que chaque année, après chaque session, on revient, ma famille et moi, très riches affectivement, très riches spirituellement, et puis avec la promesse que l'on se fait que de continuer cela. Et comme a dit Lumari, c'est dommage que les gens ne viennent pas prendre chez d'avoir l'exemple du dialogue, ce que veut dire un dialogue. C'est vrai qu'on n'a mis que 30 ans à le construire, mais ce qui est construit depuis 30 ans est très solide. C'est-à-dire, il y a, sur le plan de l'amitié, sur le plan de l'affectivité, sur le plan de la rencontre, sur le plan du partage, sur le plan de la vie ensemble, comme on en a parlé tout à l'heure, d'avoir a réussi quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'était pas facile. Sans transition, je dirais que, en suivant les métaphores que faisait tout à l'heure Lumari, alors le sujet est... violence et monothéisme, juifs et chrétiens, où en sommes-nous ?
Est-ce que c'est violence avec ou sans S ?
Non, ouais, sans S. Violence. Non, alors, bon, monothéisme, on a été obligé de préciser juifs et chrétiens. Voilà, bien que j'aurais dû le faire dès le départ, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison. Une maison qui a été entièrement refaite quand l'ENIO, l'ancienne école où se formaient les futurs instituteurs de l'Alliance dans les pays arabes ou afro-asiatiques aussi, ça allait jusqu'en Iran aussi, ben. Et qui a fermé ses portes en tant qu'école, vu les événements, et vu aussi le déplacement des juifs sfarades des pays arabes vers Israël, ou vers le Canada ou la France. Alors la maison s'est transformée en centre de culture. Et elle a été entièrement refaite, elle a coûté très cher, et elle comprend deux étages avec une école, et puis un autre étage avec un collège qui a été lancé l'année dernière, qui est en cinquième maintenant, et l'année prochaine, ils passeront en quatrième, et la rentrée sera en sixième. L'Alliance va déménager, et l'école aussi probablement, parce que le centre devient très étroit pour toutes les activités qui s'y passent. En dehors des activités dans la journée, l'école, le collège, et puis d'autres réunions qui se font. Ben, les gens demandent de plus en plus à se réunir ici. Bon, c'est vrai que c'est confortable. L'Alliance, à la fin de l'année, va déménager. Elle occupera l'avenue de Ségur, l'ancien centre des EI, qui vont y rester d'ailleurs. Oui. Et elle quittera la rue de la Bruyère. Et on est en train de chercher un local pour le collège aussi. Et puis tous les jours, il y a dimanche y compris, sauf aujourd'hui où nous occupons l'espace, tous les jours il y a des cours. Quoi. Il y a un cours dans ce qu'on appelle Beta Midrash, d'entre 7h30 et 10h30. Il y a toujours deux, trois cours sur ce qu'on appelle les humanités. Pour les différencier de certains centres, de beaucoup de centres communautaires à Paris, et qui ne sont pas des cours consacrés seulement, bien sûr, au judaïsme, à la Gemara ou à la Torah, Mais le judaïsme, c'est plus que la Gemara et la Torah, c'est de l'histoire, c'est de la littérature, c'est de l'art. Et donc, il y a des cours de littérature. Il y a un cours qu'on a commencé en janvier, Kafka et le judaïsme, aussi. Et puis, il y a aussi, tous les lundis et tous les jeudis, ce qu'on appelle le SNEJ. Et on demande à des étudiants de venir consacrer deux soirées à des études juives, lundi et jeudi. Un SNEJ qui existe depuis près de 30 ans déjà. Ensuite, il y a l'Institut Levinas. Ça, c'est le développement avec, en relation avec les universités. On arrive à nous installer dans de plus en plus d'universités où on introduit l'enseignement donc de la tradition juive, de la pensée juive, de la philosophie juive, de l'histoire, de l'art, de la littérature aussi. Par exemple, en Pologne, en Roumanie, bientôt au Maroc, au Canada, en France aussi. Et puis, il y a un nouveau projet qui se développe en collaboration avec Laurie Lafayette. Oui. Qui est ce qu'on appelle l'université numérique. Dantin des responsables et des coupables qui est là. Ouais. Et puis aussi, il y a beaucoup de demandes, comme par exemple Davar qui a demandé à se réunir ici. Et donc le centre commence à, depuis déjà 2 ou 3 années, commence à se développer de plus en plus. Et puis il y a également, là où nous sommes réunis maintenant, c'est une synagogue, vous avez le Sefer Torah derrière, oui, et qui fonctionne donc tous les jours, mais tous les jours, une synagogue au 7e, parce que tous les jours il n'y a pas beaucoup de monde, mais le Shabbat ici c'est tout plein. Ce Shabbat par exemple, on avait près de 220 personnes qui sont venues prier aussi. Oui. Ce n'est pas parce que c'est un centre important et que... Non, c'est simplement aussi, pas seulement, mais aussi que des Juifs ont raison de quitter certains endroits à Paris parce qu'ils pensent que le 16e est mieux protégé, ce qui est vrai. Alors ils emménagent, et alors chaque Shabbat, on a des têtes nouvelles qui se présentent à nous et qui viennent prier et s'inscrire aux cours et aux activités. Ce qui est toujours aussi pour moi de vous remercier aussi, et remercier donc tout d'abord et les responsables, et ce que j'ai entendu tout à l'heure, et leur renvoyer ce qu'ils ont dit de moi, et qui doit être dit d'eux aussi et d'elles, avec la même amitié, la même affection et le même engagement. C'est toujours difficile de parler en dernier. Normalement, en ce moment, je devais avoir terminé ma conclusion depuis 20 minutes. Et ce n'est pas la faute des Juifs, c'est des chrétiennes qui ont organisé cela. Voilà. Alors, ça fait que je vais faire court quand même, etc. Et puis, mettre les pieds dans le plat. Quelques mots aussi à ajouter sur ce qui a été dit et qui a été dit essentiel. C'est toujours difficile de répéter ce qui a été dit. D'avoir est né dans une abbaye à Sénanque. C'est déjà un signe. Mais seulement, comme on l'a rappelé, des juifs et des chrétiens s'y rencontraient déjà depuis longtemps avec le père Maigret. Mais il y a une différence énorme entre Davar et les sessions d'Hébreu, cela s'appelait les sessions d'Hébreu, c'est que le père Maigret, revenant de Jérusalem, avait au départ lancé ce mouvement, ou cette association plutôt que mouvement, parce qu'il avait découvert à Jérusalem qu'un prêtre qui ne connaît pas l'hébreu et qui ne connaît pas l'histoire juive et le judaïsme risque de passer à côté de l'essentiel. J'ai des risques. Et alors il a fondé cette association des sessions d'hébreu, qui n'a pas commencé à Paris d'ailleurs, oui, et pour les prêtres. Et au départ, il y avait beaucoup de prêtres qui s'inscrivaient, qui suivaient les sessions d'hébreu, qui venaient apprendre l'hébreu. Et dans un deuxième temps, il a partagé la journée en deux, la semaine d'études en juillet. Mais il ne faisait pas simplement que les sessions en juillet. Il y en avait à chaque moment que lui permettait le calendrier, à Noël, à la Toussaint, à Pâques. C'était des sessions de 3 à 4 jours. En juillet, c'était 7 ou 8 jours à l'abbaye de Sénanque. Il avait décidé que le matin, on apprenait l'hébreu à 3 niveaux. Et c'est l'après-midi qu'on faisait les conférences et que les juifs venaient faire des conférences aux chrétiens pour qu'ils découvrent le judaïsme. C'était le projet premier. Et on a fonctionné comme ça. Je me rappelle encore, vous avez vu les photos de Claudine et de Domino. Où on suivait ces programmes-là, dans la jolie abbaye de Sénanque, la merveilleuse abbaye de Sénanque. Oui. Et puis un jour, l'idée s'est dégagée. Je crois, Claudine va me confirmer cela, mais moi j'en suis convaincu que dans l'esprit de Claudine, avec sa complice de Dominique, elle ne se quittait jamais, elles ne sont jamais quittées, elles ne se quitteront jamais. Dans leur esprit est venue cette idée qu'il fallait peut-être changer le programme et en même temps la viser, et qu'il fallait cesser de faire parler les juifs devant les chrétiens pour qu'ils apprennent ce que dire le judaïsme, mais que peut-être il fallait passer à un autre niveau qui est celui de Dabar précisément. Et c'est comme ça qu'à Sénanque, pendant la dernière session, on en a discuté avec Emmanuel Muhem. Et l'idée, donc, a pris de plus en plus forme. Et quand Claudine et Domino ont une idée dans la tête... Mais il a été très difficile de couper le cordon ombilical. Il y a eu des douleurs d'enfantement. Ça n'allait pas tout seul, tout d'abord à l'intérieur, et puis à l'extérieur, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Ouais. Ça a été particulièrement difficile parce que l'enfant d'Avar avait décidé, avec les ailes de Claudine et de Domino, avait décidé de voler de ses propres ailes vers ce projet-là. Et puis, il y a eu beaucoup plus que ce qu'on appelle la crise d'adolescence ou de croissance. Et il y a eu beaucoup de difficultés. La preuve, dès l'année suivante, à Villefranche, on avait organisé le séminaire sur la souffrance et le mal. On a perdu quelqu'un de très important, qui nous a quittés. Parce qu'il y a eu... des problèmes de compréhension et d'interprétation difficiles qui ne venaient pas de nous. Et Claudine et Dominus avaient voyagé jusqu'à chez lui, bon, en dehors de la France, pour essayer de l'expliquer, mais avec même des cassettes et tout, et ça n'a pas marché. Et je l'ai revu, on l'a revu le jour de l'intronisation de Gilles en tant que grand rabbin de France. Et il a eu une rencontre merveilleuse, comme si rien ne s'était passé. Ouais. Mais c'était quelqu'un qui avait de la valeur. Ouais. J'allais régulièrement à Bruxelles, tous les 15 jours, pour un séminaire... Oui, mais l'autre, le prêtre, Closset, puis le prêtre, Benoît Standard. Benoît Standard qui venait régulièrement à mes cours. Je faisais un cours l'après-midi, un cours le soir, et on travaillait ensemble. Mais en dépit de ces attaques extérieures, intérieures, il y avait les attaques extérieures. Claudine pourrait vous en parler énormément, c'est elle qui les subissait, partout où elle passait avec Domino, des attaques extérieures chrétiennes, mais pas seulement chrétiennes, juives aussi. Combien j'en ai entendu, moi, personnellement, des amis rabbins à Strasbourg ou à Paris ou partout où je passais. Hein. Parce qu'ils ne croyaient pas à ce dialogue possible. Et ils avaient tort de notre point de vue, ils avaient raison de leur point de vue. Particulièrement les frères Ashkenazim, les Sfardim, bon, ils le disaient très simplement, mais ils n'y croyaient pas. Mais surtout les frères Ashkenazim qui se demandaient s'il y avait un dialogue possible encore, étant donné ce qui s'était passé. Et on comprend. Ouais. Donc des difficultés venant des Juifs et des chrétiens et qui ont entraîné à l'intérieur de nous-mêmes aussi des crises, des heures très regrettables. Mais les conséquences ne furent pas toujours négatives. Claudine, la maman, Domino, la nourrice, veillait à préserver leur enfant. Elle s'y connaissait. Je ne sais pas si c'est la profession ou la vocation de femme. Je ne sais pas si c'est la profession de pharmacien qui... Au contraire, nous sommes restés obstinés, et nous le resterons toujours, sur ce projet-là, et sur le sens de la fraternité que nous avons construite. Il était normal qu'elle fût construite et qu'elle continue à être construite en dépit des obstacles et grâce à ces obstacles. Cette fraternité entre les Juifs et les chrétiens dont nous parlons depuis tout à l'heure. Nous montrons chaque année à Davar que nous vivons, que nous partageons, que nous apprenons, et en toute liberté et dans l'enrichissement réciproque. Il y a un terrain sur lequel Davar a parfaitement réussi, c'est le terrain de la complicité sur le projet et aussi le terrain affectif. Nous sommes arrivés, je le dis souvent, à ce niveau tel que ce qu'on se dit l'un à l'autre et les uns aux autres n'était pas fondé sur cette affectivité, cette fraternité, cette co-responsabilité inconditionnelle provoquerait des heurts et des querelles. Nous savons que nos différences nous opposeront, nous sépareront toujours. Mais l'esprit et l'entente dont nous témoignons tout au long de l'année, et surtout on le voit dans la session de juillet, font partie de notre patrimoine commun, et de notre mémoire construite pendant 30 ans. Vous savez, on a parlé de 30 du Lamed. Vous savez que le Lamed, j'espère que vous le savez tous maintenant, le Lamed est la seule lettre qui pointe vers le ciel, et qui signifie en même temps enseignement. Enseigner, oui. C'est la seule lettre donc qui pointe vers le ciel, et elle signifie aussi apprentissage, enseignement, et pour faire un jeu de mots aussi, elle signifie aussi, et nous le sommes, des apprentis sages. Mais le problème n'est pas de réussir sur le plan de l'affectivité, sur le plan du désir, sur le plan du partage, de la responsabilité. Le problème est beaucoup plus grave que cela. Il faut que nous en prenions conscience. Je voudrais donner un exemple, un midrash. Un midrash, c'est-à-dire une interprétation que celui qui fait le midrash ne déduit pas du texte. Il y en a qui pensent que le midrash, c'est la déduction du texte. Jamais dans la Gemara, ce qui est enseigné sur le plan du sens est déduit du texte. C'est pas cela qu'on appelle le midrash. C'est pas un raisonnement déductif. Puisque c'est comme ça, c'est contenu comme ça. Pas du tout. Le Midrash, c'est-à-dire qu'un rabbin a une signification qu'il a apprise, qu'il a découverte, parce qu'il est génial ou parce qu'on lui a transmise. Ou... Il a une signification. Quoi. Il veut enrichir la mémoire juive de cette signification. Alors il se met à la recherche d'une certaine lecture d'un verset ou d'un mot pour y greffer pour la mémoire cette signification. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela. C'est ça qu'on appelle le Midrash. La signification trouvée n'est pas dans le texte. Mais on cherche le moyen de la greffer, de l'instiller dans une manière de parler, dans un mot qu'il y manque une lettre, dans un mot qui est répété, et on n'accepte pas la répétition, pas que sais-je. C'est ça qu'on appelle le Midrash. Et il y a un Midrash, je vous donne un exemple qui est le suivant, c'est que un rabbin, dans la Gemara, dans le Midrash donc, veut expliquer au lecteur et autour de lui à ses élèves, je suppose d'abord, que l'homme est une créature impossible. Il ne faut pas glisser, donc il fallait Dieu pour le créer, puisqu'il est impossible. Il ne faut pas aller vite. Simplement que, en y réfléchissant, l'homme est un être impossible. C'est un être mortel qui a des désirs et des idées d'éternité. Il est malade. Voilà l'idée du rabbin. Alors il va essayer de chercher sur quel verset il va la greffer. Et puis il l'a trouvé. Le rabbin trouve toujours. Quand Dieu veut créer l'homme, il dit Naase Adam, faisons l'humain. Naase Adam, à d'autres ressemblances, peu importe. Naase Adam, faisons l'humain. Après les végétaux, après les animaux, il y a une nouvelle modalité de l'existence qui arrive qui s'appelle l'humain. Seulement, la question est la suivante. À qui il dit Naase? Mais il est seul. Alors, bien sûr, des Midrashim qui disent à qui il a dit, à les anges, il n'y a pas en participe. Ou alors le plus réel de majesté. Bon, tout ça est valable, oui. Mais ce rabbin dit, non, il ne faut pas dire Naase, parce qu'avec les consonnes, il n'y avait pas les voyelles du temps de la Gemara. On réfléchit sur... le texte consonantique. Les voyelles sont venues beaucoup plus tard. Alors il dit, on ne va pas dire « Naase Adam, faisons l'homme », mais on va dire « Naasa Adam, l'homme a été fait ». Et c'est là donc qu'il va construire son Midrash. L'homme a été fait parce que quand Dieu a voulu créer l'homme, ben, il a réuni les anges. Et il leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez de cet homme, de cet être-là, de cette nouvelle modalité de l'existence ?» Alors, bien sûr, il y a les anges qui disent il va faire la guerre, il ne faut pas. L'autre, non, il peut être capable, il va faire l'injustice. Non, il peut être capable de justice à partir d'un verset des psaumes, Hesed Ve'emet Nivgashu, d'un verset des psaumes qui fait précisément, qui dit que les valeurs se sont heurtées. Bien alors, le rabbin construit ce midrash, que Dieu est revenu plus tard. Il leur a dit alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Il dit, on n'arrive pas à décider. Il dit, pas la peine de perdre votre temps, il est déjà créé. Voilà comment ce rabbin glisse, enrichit la mémoire d'Israël avec l'idée que l'homme est un être impossible. Alors j'utilise cela pour dire que le dialogue entre le chrétien et les juifs est un dialogue impossible. Mais comme l'homme est fait d'avare, d'avare montre que qu'est-ce qu'on est en train de discuter, on le fait depuis 30 ans. Mais il faut savoir que c'est un risque énorme. Parce qu'il y a de quoi. Et tout ce qui s'est fait entre l'Église et les Juifs, les chrétiens et les Juifs, depuis 2000 ans, ou depuis plusieurs siècles en tout cas, bien sûr est condamnable. Mais avant de condamner, il faut comprendre comment cela s'est-il passé. Comment un chrétien peut brûler un juif en lui présentant une croix Et on l'obligeait à se convertir, sinon il sauverait son âme, mais son corps ne sert absolument à rien. Comment un chrétien peut penser cela? Mettre ça sur le plan de la folie, c'est aller vite. En quoi et pourquoi le judaïsme a-t-il toujours posé des problèmes pour le christianisme? En quoi? Et pourquoi les papes, les théologiens, les chrétiens ont-ils réagi parce que Jules Isaac a appelé l'enseignement du mépris et par les violences physiques infligées aux juifs pendant des siècles? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Était-ce seulement le fait des chrétiens qui n'avaient rien compris à l'enseignement de Jésus? Ou cela est-il inscrit dans la théologie de l'Église? Et c'est la théologie de l'Église, elle, qui rend impossible ce dialogue. Et pourtant que nous réussissons sur le plan affectif, sur le plan de la rencontre, sur le plan de la solidarité, cela est réussi. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut répondre que malheureusement, dès le début de l'ère chrétienne, les évangélistes et les pères de l'Église qui leur succédèrent se sont confrontés à la question de savoir comment proclamer l'universalité de l'alliance nouvelle et définitive vécue et transmise par Jésus, le Christ, et reconnaître en même temps le sens et la valeur de l'alliance ancienne vécue et transmise par les Juifs qui mettaient en question l'entreprise chrétienne. C'est là où se situe le dialogue. Ce dialogue, encore une fois, que nous réussissons, et ça c'est un miracle, et c'est extraordinaire, tout au long de l'année, et pas simplement à la session d'Avar, qu'on ne nous rencontrons pas, et qui est installé définitivement entre nous. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour voir dans quelle aventure Claudine et Domino nous ont engagés. Au sein des temps et des espaces christianisés, les Juifs qui s'y étaient installés à la suite de leur exil continuaient à dire non à Jésus le Christ. Et la réaction chrétienne à ce refus fut simple. On déclara nulle et non avenue cette problématique et on enseigna que le christianisme était la fleur du judaïsme et on élabora ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Le nouvel Israël, le vrai Israël, n'était plus le peuple juif, mais l'Église qui prenait sa place. Je sais que c'est un poncif, parce que ce poncif, eh bien, il a circulé pendant des siècles, il continue à circuler chez certains. Moi, je le rencontre tous les jours, presque. Est absurde. Et que le chrétien conscient, que nous connaissons à Davar, et pas simplement à Davar, trouve absurde cela, qu'on n'a plus le droit, en tant que chrétien, de parler de cette manière-là du judaïsme. Ouais. Mais il ne faut pas éviter le problème. Le problème est difficile. Le peuple juif demeure et demeurait comme témoin des souffrances que subissent ceux qui ne comprennent pas la plénitude et la paix du royaume de Dieu incarné par Jésus le Christ et qui ne savent plus lire l'annonce déjà de l'aventure chrétienne et de la messianité ou du messianisme chrétien dans la Torah des Juifs. Voilà comment se pose le problème. Et à Davar, nous nous y dirigeons peu à peu. On ne choisit pas comme cela les sujets, mais implicitement et parfois explicitement, on se rapproche de plus en plus de ce nombril, de ce point, de ce centre du dialogue. Comment le fonder? Cette théologie ne fut pas dommageable pour les Juifs seulement. Qui ont vu transformer leur exil en enfer, là où on enseignait l'amour, et que Dieu est amour. Oui. Mais il a été dommageable pour les chrétiens eux-mêmes. Donc le problème n'est pas l'anti-judaïsme affectif, toutes les raisons historiques, psychologiques, psychanalytiques, sociologiques qu'on invoque pour expliquer cet anti-judaïsme qui a été inscrit chez la plupart des théologiens de l'Église pendant tout le Moyen-Âge. Et on en trouve aujourd'hui encore. Mais pour le chrétien lui-même, ça a été dommageable. Parce que ça l'éloignait véritablement du message de Jésus. que le chrétien, je viens de le dire avec les juifs, que le chrétien comme le juif interprète le texte biblique comme il l'interprète, c'est son droit et son devoir, c'est sa foi. Je n'ai pas à déclarer qu'elle est vraie ou elle est fausse. Si ça ne va pas, sinon je serai obligé de déclarer aussi que ce que les rabbins ajoutent à la Torah est faux également, puisqu'ils utilisent la même méthode. Et de la même manière que les rabbins construisent le judaïsme à partir de cette méthodologie qu'on appelle le Midrash, qui consiste à enrichir un texte de ce qu'il ne contient pas, mais dans lequel on montre qu'il peut contenir et qu'il est prêt à recevoir ce qu'il ne produit pas lui-même. Pourquoi je vais l'interdire aux chrétiens? Et c'est ça qui rend le dialogue impossible. Pourquoi? Parce qu'acceptons que on peut aller à Dieu par plusieurs voies. On n'est pas obligé de passer par le christianisme, ni par le judaïsme, ni par l'islam. On peut aller... Eh bien, on remet en question un certain nombre de principes, comme chez nous également, dans la pensée de beaucoup de juifs, et même de philosophes. Hein. On est obligé de réviser la théologie de l'Église, qui s'est construite sur ces principes-là. Et le chrétien, sur ce terrain, est dans une situation beaucoup plus difficile que le juif. Et nous, juifs à l'intérieur de Davar, nous voulons faire comprendre à nos frères chrétiens de Davar et d'ailleurs que nous sommes conscients de cela et nous voulons y aider. Et nous voulons que le christianisme continue, alors qu'il y a un abîme entre les deux. Il ne faut pas se le cacher. Quel que soit l'amour, jamais Dieu, jamais juif, un juif, n'ira à Dieu par Jésus. Quel que soit l'amour et la solidarité, jamais un juif n'ira en tant que juif à Dieu par Jésus. Voilà la rupture et voilà l'abîme. Et en tout cas, moi personnellement, nous souffrons de cela, de la position difficile du chrétien. Nul ne va au Fils que par le Père. Que ne voulez pas au Père. Nul ne va au Père que par le Fils. Mais ça a un sens aussi. Ouais. Est-ce que quoi que dise Paul dans un certain, si c'est Paul qui l'a dit, même si on le met sous le nom de Paul, sur le rite et la loi, ben, la loi, c'est-à-dire la loi, c'est pas la loi générale, c'est-à-dire le rite. C'est ça qui est visé par Paul, hein. Que le rite, nous y croyons, nous le pratiquons, et on ne peut pas aller à Dieu sans ce rite, en tant que juif. Voilà donc comment le problème se pose pour nous aussi. Nous voulons vivre ensemble, et pas simplement dans la paix, nous voulons vivre ensemble parce que nous nous aimons, et que nous enrichissons jusqu'à un certain point. Mais jusqu'où ça peut aller dans l'engagement spirituel du chrétien comme l'engagement spirituel du juif? Jusqu'où le chrétien peut aller jusqu'à... Oui. Et ça signifie que l'enseignement de Jésus n'est pas universel, quelles que soient les déclarations de l'Église, parce que le juif restera juif. Vous voyez le problème dans lequel nous sommes engagés. Mais cela, et c'est ça qui est le miracle fait à Davar, nous sommes conscients de cela, mais il n'est pas question de penser que je peux vivre, moi, juif, sans l'amour du chrétien dans un sens et dans l'autre. Voilà le paradoxe dans lequel nous sommes. Parce que si Dieu a choisi... la vision du monde chrétienne, mais c'est qu'il en avait besoin. Et ça veut dire cela, le juif ne peut pas l'accomplir. Et l'Église, maintenant c'est fini depuis Nostra Aetate, même beaucoup, beaucoup plus tôt, je pense. L'Église est en train de comprendre aussi que on peut aller à Dieu sans être chrétien. Et par là même, l'enseignement de Jésus n'est pas universel. Toute l'humanité ne passe pas par Jésus pour aller à Dieu. Et il ne faut pas jouer le jeu, mais ça fait moins inconsciemment, ça passe, etc. Non, il faut être sérieux avec cela. Comment aborder cela? Je voudrais montrer, mais très rapidement, parce qu'on en a parlé, montrer comment ça me fait l'effet de tout d'un coup d'un silence, et puis quelqu'un qui frappe sur sa cymbale d'une manière très très forte et ça explose. C'est comme ça que j'ai reçu le 28 octobre 1965 Nostra Aetate. Comment penser que l'Église était en train de prendre conscience de cette question? Un véritable tournant dans les relations entre l'Église catholique et les religions non chrétiennes, d'une manière générale. Et le paragraphe 4, qui est consacré à la religion juive, le paragraphe 4, qui est consacré à la religion juive, de manière précise, est une étape importante dans l'histoire de ces relations. Nous y apercevons, dans le noir des lettres inscrites et dans les blancs qui les séparent et les relient, parce qu'il y a des tas de choses implicites, mais pas vous rendre compte, peut-être que par vous, les querelles cruelles et difficiles du cardinal Béa pour faire admettre cela. Vous ne pouvez pas vous rendre compte pour qu'on vous lise le détail. On a failli tourner la page plusieurs fois sur cette déclaration et ne pas la faire. C'est Béa, le cardinal Béa qui a absolument lutté. Ouais. Parce qu'il y avait aussi les prêtres des pays arabes. On comprend. Qui s'opposait à cela. Donc il faut lire entre les lignes, et dans le blanc des lignes, comme nous disons, le formidable bouleversement. Certains parlent même de conversion dans la perception chrétienne du judaïsme et dans le sens et la valeur que l'Église donne à l'existence juive depuis. Et pour nous juifs, avec Nostra Aetate, l'Église triomphante du Moyen-Âge sort de ce péché d'orgueil. Il s'engage dans le difficile dialogue, dans l'impossible dialogue avec les autres religions dans lesquelles elle a enfin reconnu, je mets entre guillemets, un rayon de vérité ou de la vérité qui illumine tous les hommes. Et la déclaration est introduite les relations avec le judaïsme ainsi. Scrutant le mystère de l'Église, le concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Scrutant le mystère de l'Église, et dans le mystère de l'Église, il y a désormais inscrit le peuple juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la mutation qui se passe. Pensez cela après les 2000 ans qui sont passés. Il y a donc un lien spirituel entre l'Église et la synagogue. C'est affirmé. Il est enfin reconnu. Le peuple juif retrouve sa dignité et ses titres de noblesse. Il a été choisi pour le salut du monde aussi. Le point de départ d'une nouvelle théologie chrétienne face à l'existence juive est ainsi posé. Seulement, la déclaration n'est pas descendue du ciel. Elle a été préparée, moi. Je dis qu'il y a eu des querelles pour cela, des querelles difficiles. Elle a été précédée par plusieurs propositions émanant des documents adressés au secrétariat pour l'unité chrétienne. Et je voudrais simplement, Louis-Marie l'a dit tout à l'heure, je passe, relever ce qui était en même temps la révolution et la conscience de la difficulté de ce dialogue. On dit par exemple deux ou trois idées. La première idée à laquelle moi j'ai réagi, c'est que dans Nostra Aetate, est inscrit dans le paragraphe 4 ce qui a rapport
avec la religion juive, mais dans l'ensemble des relations de l'Église avec les autres religions. Et voici qu'on a classé la religion juive avec les autres religions comme une religion non chrétienne. Non, c'est le christianisme qui est une religion non juive. Oui. C'est pas pour critiquer, pour montrer la difficulté. C'est pas facile. Ouais. Et c'est cela à quoi, moi, personnellement, je voudrais que les Juifs s'engagent, comprennent que l'Église est dans une, avec, en rapport avec les Juifs particulièrement, pas avec les autres. Avec les Juifs particulièrement, ici, à cause de l'histoire, à cause de la spiritualité, oui. L'Église a un problème particulier et unique avec Israël. Jésus, c'est un Juif. Les évangélistes, c'était des Juifs. Et c'était des Juifs qui ont écrit avec leur esprit qu'on peut critiquer du point de vue juif ou du point de vue chrétien, peu importe, qui ont écrit ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est eux qui, à l'intérieur du peuple juif, ont fait cette crise. C'est eux qui ont entraîné ce mouvement extraordinaire de 2000 ans de spiritualité chrétienne. C'est les Juifs qui ont entamé cela à l'intérieur d'un ensemble de manières d'être juif. Et encore, quand je dis juif, j'exagère, c'est anachronique. Le judaïsme va venir beaucoup plus tard. C'est à la destruction du temple, alors que le judaïsme pharisien, le judaïsme sera pharisien. Mais les Sadducéens, est-ce qu'ils étaient dans le judaïsme? Non, ben, ils étaient juifs, mais ils n'étaient pas dans le judaïsme, ce qu'on appellera le judaïsme plus tard. Voilà, donc ici, le texte, une première remarque, montrer la difficulté qu'il y a eu à faire cela. Ensuite, on dit aussi, c'est pourquoi l'Église ne peut oublier ce qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance. Vous voyez que dans la formule, ça peut gêner. Oui. Mais encore une fois, quand vous critiquez, critiquez par amour. Pas. Ne critiquez pas pour démolir. Pas. Ouais. Faites comme les prophètes. Personne n'a critiqué le peuple juif autant que les prophètes. Les pires antisémites n'ont pas écrit ce que les prophètes ont écrit du peuple juif. Il y en a qui vont le comparer jusqu'à Sodome et Gomorre. Hein. Vous vous rendez compte, pas? Ouais. Mais on sent dans ces critiques l'amour qu'il y a. Je voudrais que c'est cela qui s'installe entre les Juifs et les chrétiens quand il y a des critiques réciproques. Qu'on n'oublie pas ça. Et ça, c'est à Davar, nous le vivons. Et ça, c'est un trésor qu'il faut absolument garder. Et puis surtout le transmettre à ceux qui décident de nous suivre. Vous avez aussi, l'Église a toujours devant les yeux les paroles de l'apôtre Paul sur ceux de sa race. Néanmoins, selon l'apôtre, les Juifs restent encore à cause de leur père très cher à Dieu. Non, les Juifs restent encore très chers à Dieu à cause de 2015, de 2016, à cause de 48, à cause d'Israël, pas simplement à cause des pères. Vous voyez la difficulté qu'il y a. Et il faut vraiment être d'une reconnaissance extraordinaire au cardinal Béat, qui est quand même arrivé à imposer cela, oui. À ceux qui s'y dressaient et qui voulaient absolument éliminer de l'histoire cette formulation, cette proclamation. Ouais. S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas être pour autant représentés comme réprouvés par Dieu ni maudits. Merci. Je voudrais encore une fois qu'on ne se trompe pas. C'est quelqu'un de Davar. C'est les Juifs de Davar qui peuvent être gênés par cela, mais qui ont leur responsabilité. C'est un appel. Il faut qu'avec les chrétiens, on puisse formuler cela d'une autre manière et on comprend déjà Nostra Aetate. Ça a été une révolution, une conversion. Et on ne peut pas grandir immédiatement. Il faut passer par temps. L'Église réprouve toutes les persécutions. Non, il s'agit de la Shoah. On ne réprouve pas la Shoah. Ouais. L'Église déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme. Non. Non. Et pourtant, C'est un texte, encore une fois, d'une révolution formidable. Et vous savez ce qui s'est passé. Comme a dit Louis-Marie tout à l'heure, c'est déjà une, ce qui est important dans cette Nostra Aetate, cette ouverture extraordinaire qu'elle va permettre jusqu'à après 2000 ans, voir des papes aller à la synagogue, voir un pape déposer sa prière comme les autres juifs dans un creux de du cotel, aller déclarer que nous sommes frères, même si, comme on m'a fait la remarque, frère aîné, mais vous savez ce que la Torah pense du frère aîné. C'est notre problème commun à nous, juifs et chrétiens. Il s'agit pour nous de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, chacun l'interprète à sa manière. Et il a raison de l'interpréter. L'interprétation n'est que l'interprétation. L'interprétation n'est pas une vérité. L'interprétation, elle ouvre un monde du sens. Ouais. Sinon, ce serait l'expliquer. Quand vous expliquez, vous êtes dans la vérité. Mais l'interprétation, ça veut dire que vous êtes dans le monde du sens et personne ne peut prétendre atteindre le sens absolu de quoi que ce soit, ni de la Torah, ni de l'Évangile. Si c'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, personne ne peut l'épuiser. Ouais. Ouais. Nos pères dans la foi, les racines juives du christianisme, etc. Oui. Même la même la dernière déclaration du pape François, il ne parle pas de l'antisémitisme. Il ne parle pas, mais c'est récent. Il ne parle pas du lien d'Israël avec sa terre, alors que le Saint-Siège a reconnu l'État palestinien. C'est notre problème aussi. Encore une fois, c'est délicat et c'est difficile, n'est-ce pas ? Ce n'est pas des critiques que les Juifs lancent au visage de chrétiens pour lui dire qu'il n'a rien compris, qu'on est insatisfait et que ça sera toujours comme cela. Non, il prend cela comme dans sa propre responsabilité. Je suis responsable de cette manière d'exprimer les choses et je comprends. Je ne peux toujours, comme disent les rabbins, quand tu juges quelqu'un, juge-le les chavzéhout pour le mérite, par rapport au mérite et pas seulement pour le condamner. Regarde ce qui est positif dans ce qu'il fait. Même si ce qu'il dit et ce qu'il écrit et ce qu'il déclare et te paraît négatif par rapport à toi, ne t'excite pas. Imagine le problème dans lequel il est et dans sa situation, comment il essaye et quels sont les efforts qu'il fait pour essayer d'atténuer les choses. Et il ne peut pas les atténuer jusqu'à les effacer tout de suite. Il y a un temps de compréhension, un temps d'élaboration. Et il faut être solidaire de cela. Et puis heureusement, bien sûr, il y a eu Jean-Paul II, 86, Benoît, en 2016, en 2010, François, le 17 janvier aussi, et c'est la déclaration de repentance. En vrai, je vous passe tout cela. Vous le savez, je n'ai pas besoin de le passer en revue. J'ai toutes les déclarations ici au fur et à mesure que je suis. Et c'est ça qui m'engage à vous parler de cette manière-là ce soir. Bon, disons-le. Le problème chrétien est un problème juif. Le problème chrétien est un problème juif. C'est nous qui l'avons lancé dans le monde. C'est nous qui l'avons préparé. Si vous avez assez de temps et assez de force des yeux pour veiller la nuit avec votre lumière, pour voir tout ce qui s'est écrit dans ce qu'on appelle la littérature néo-testamentaire, et tout ce que nous avons écrit, nous, comment nous avons préparé régulièrement, depuis Hanouka et de dizaines d'années en dizaines d'années, tous les livres qui ont été écrits, exclus du canon biblique, exclus même, de temps en temps, la Gemara fait allusion et les cides, mais toute cette littérature apocalyptique, c'est les Juifs qui ont inventé l'Apocalypse. Cette littérature apocalyptique, elle était en train de préparer tranquillement le christianisme. Et certaines affirmations du christianisme aujourd'hui que nous réprouvons, ce sont des Juifs qui l'ont écrit avant l'Évangile. C'était chez nous. Lisez Daniel si vous voulez aller dans la Torah. C'est les Juifs qui ont tracé cette voie. Et j'allais dire donc qu'elle est sûre de réussir. Voilà mon problème à moi que je vis pas. Et le problème chrétien, il est temps que les Juifs comprennent que c'est leur problème à eux aussi. que quelles que soient les apparences avec l'islam, le christianisme est le plus près du judaïsme. Quelles que soient les apparences avec l'islam. Parce qu'il se réclame des mêmes textes que nous. Parce que l'Église, au IIe siècle, a lutté contre les gnostiques qui voulaient exclure pas simplement la Torah du canon chrétien, mais ils voulaient même censurer tout ce qui se rapportait à la Torah dans l'Évangile. Je me demande ce qui serait resté. Elle a réagi en adjoignant aux évangiles, la Torah. Et tout cela a formé pour elle toute la Bible. Je répète encore, et je le dis, je harcèle, nous habitons le même étage. L'islam habite à un autre étage. Nous habitons le même étage. Et nous héritons ensemble de cette responsabilité d'un problème important, un problème central. C'est sortir, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, c'est libérer la parole divine de la religion. Je ne vois pas en quoi c'est une religion. Que veut dire la religion? Parce qu'on n'a pas réfléchi sur ce que veut dire la foi. Ouais, la foi. Ouais. Et on a trop donné à la foi. Et on met trop sur le dos de Dieu, même s'il est infini. Ouais. Il faut que nous puissions sortir de cette formulation religieuse. Et c'est très difficile, parce que la masse suit chrétienne et juive, elle suit ce type de discours, cet univers qu'on appelle l'univers religieux. Mais que veut dire la religion? Que veut dire la religion? Quand on analyse les textes, on ne voit pas où ils laissent place à la religion. Ils laissent même pas la place à la foi, du point de vue juif aussi. On n'a pas de mot en hébreu pour dire la foi, ce n'est pas vrai. On a un mot qui veut dire imouna, imouna c'est la confiance. Quand vous dites amen dans l'église ou à la synagogue, ça veut dire j'ai confiance, ce n'est pas je crois. Amen, c'est-à-dire je fais confiance, imouna. Autrement dit, faire confiance à la parole divine. Et que veut dire la parole divine? Sur le plan de la réflexion, c'est une parole qui est inépuisable. Elle est révélée, on l'a dit Shabbat hier à la synagogue avec le décalogue. Elle est inépuisable. Ce qui est de l'ordre du divin, c'est ce qui vous cache le sens ultime. Pour vous obliger à prendre votre responsabilité à signifier. Parce que c'est seulement en signifiant que vous affirmez votre responsabilité. Dire que l'eau c'est H2O, du point de vue de la vérité, il n'y a aucune responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez? L'eau, elle est comme ça. Le langage déductif, rationnel, expérimental, est un langage derrière lequel le savant se cache. Il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité vient de l'extérieur. Il va faire de cette théorie scientifique ce qu'il va faire de négatif ou positif. Mais la théorie scientifique n'a rien à faire avec la responsabilité. Elle est ce qu'elle est. Un tsunami, c'est un tsunami. Un tremblement d'air, c'est un tremblement de terre. Ouais. Mais là où se fonde véritablement la responsabilité de l'homme, c'est quand vous ajoutez du sens dans un monde ou dans un texte qu'il ne contient pas. Parce que là, vous engagez dans une histoire dont vous êtes l'initiateur. Vous devez payer les conséquences. C'est quand vous ajoutez le sens que vous êtes responsable. Mais quand vous affirmez la vérité, il n'y a pas de responsabilité. C'est des deux font quatre, quelle responsabilité? C'est la manière dont vous allez donner sens à la vérité qui va engager votre responsabilité. Et je ne connais pas d'autre fondement de la responsabilité que celui-là. Alors, je ne vois pas en quoi c'est religieux. J'ai confiance qu'un jour, les hommes comprendront qu'il ne faut pas tuer. Alors, il faut bien que je commence, moi. Je ne vais pas attendre le dernier homme de la dernière génération. Et je montre que je ne peux ne pas tuer, que cette loi, elle, interprétée d'une manière infinie, que cette loi, l'homme en est capable, que ce qui doit être n'est pas hermétique à ce qui est, et ce qui est n'est pas hermétique à ce qui doit être. Et ce qui doit être, c'est ça qu'on appelle le divin. Et ce qui est n'a rien de divin. Je ne vois pas ce qu'il y a de religion là-dedans. Que vivre dans deux mondes. Le monde de ce qui doit être et le monde de ce qui est. Et le monde de ce qui doit être est divin parce que d'une part, il ne sort pas de ce qui est. Ça, c'est le paganisme. Ça, c'est le marxisme. Ça, c'est le rationalisme. Ça, que sais-je, moi, faut toute l'histoire de la philosophie. Oui. Et de la culture. Mais ce n'est pas ce qui est qui me dit ce que j'ai à faire. Ce que je dois faire, ça descend symboliquement du ciel. C'est révélé pour dire que ça ne vient pas de ce qui est. C'est transcendant. Et comment vous allez entreprendre cela ? Mais c'est là où vous allez engager votre responsabilité, en interprétant ce qui doit être par rapport à la situation où vous êtes. Et la signification que vous donnez, suivant votre situation, dans l'espace et le temps, de ce qui doit être, eh bien, vous en êtes responsable parce que vous êtes en train de changer le monde avec votre interprétation. C'est normal que vous payiez le prix. Je veux savoir ce qu'il y a de religieux là-dedans. J'ai simplement confiance qu'un jour, tous les hommes comprendront cela. Et c'est la lutte que nous avons, nous, chrétiens et juifs, ensemble. C'est notre co-responsabilité de montrer que cette parole divine, interprétable infiniment, peut entrer dans l'être. Que je peux mesurer ce que je désire, le désirer. Je peux et je dois marquer un temps d'arrêt et réfléchir à ce qui est désirable indépendamment de moi et qui est désirable universellement par tous pour pouvoir permettre à mon désiré de désirer ce désirable. Mais mon désiré ne peut pas se juger lui-même. Mon désiré, c'est ce qui est. Et il faut mesurer le désiré par le désirable. Ben, c'est ça qu'on appelle la transcendance. Je ne vois pas ce qu'il y a de religion là-dedans. Mais les Juifs et les chrétiens ont pris le langage religieux pour faire descendre la parole divine sur terre. Voilà où nous en sommes. Et il est temps qu'on se réveille et on a une responsabilité énorme ensemble par rapport à cela. Et Dieu a besoin du chrétien. Et Dieu a besoin du juif. Il les a mis dans une situation divine, de paradoxe indépassable. Comment donc interpréter notre tradition ? Je termine sur cela. Interpréter notre tradition, chacun, de telle manière de comprendre que chacun y va sans qu'aucun des deux ne puisse prétendre au sens absolu qui se cache. Mais ce dont nous voulons nous assurer, c'est que chacun de nous comprenne que l'aventure humaine ne peut obtenir son salut, oui, pourquoi pas, que par la responsabilité à l'égard du sens. Et ce qui me désespère aujourd'hui, c'est que l'homme n'est plus sensible à l'univers du sens. Il est dans l'efficacité, dans l'utilité. Et donc, quand j'ai dit l'efficacité et l'utilité, ce n'est pas simplement les objets, il utilise aussi les hommes pour cela. Et ça va loin. Et la situation aujourd'hui est en train de... Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à dire choc de civilisation, mais je sais que la civilisation occidentale est en train de passer une crise terrible qui doit l'obliger à revenir sur ses fondements. Et ses fondements sont judéo-chrétiens. Je vous remercie.